pharmacie, parapharmacie et sur colpropure.fr. Un complément alimentaire ne peut se substituer à une alimentation variée, équilibrée et un mode de vie sain pour votre santé. Bougez plus. Bonne journée.
Un cœur plein de peine. La vie se passe comme prévu.
Avec France Inter.
Vous êtes bien sur Inter, il est midi. Amélie Perrier pour vous informer.
Il était encore l'un des rares opposants à Vladimir Poutine, toujours en Russie. Lev Schlossberg a été arrêté hier et envoyé en prison. L'homme politique est accusé d'avoir discrédité l'armée en appelant à un cessez-le-feu en Ukraine. Schlossberg est emprisonné dans l'ouest de la Russie. Bonjour Sylvain Tronchet.
Bonjour Amélie.
Et il est présenté ce matin devant un tribunal.
Oui, Lev Schlossberg est arrivé menotté au tribunal de Pskov, hein, la ville de l'ouest de la Russie où il vit. L'audience a été publique pendant une dizaine de minutes, le temps d'entendre la procureure requérir son assignation à résidence et demander et obtenir le huis clos, comme souvent dans les affaires politiques concernant les opposants en Russie. Le vice-président du parti Yabloko se savait menacé. Hein, il a été classé agent de l'étranger il y a 2 ans, mais il expliquait qu'il était impossible, selon lui, de faire de la politique, d'être entendu depuis l'étranger. Alors il marchait sur un fil depuis le début de la guerre, maîtrisant ses paroles, mais assumant sa critique de la politique du Kremlin. Il avait déjà été condamné à des amendes jusqu'à la publication d'une vidéo il y a quelques jours où il appelait à un cessez-le-feu rapide, ce qui a été interprété immédiatement par les autorités comme une discréditation des forces armées, un délit qui a déjà conduit en prison de nombreux opposants. Le domicile de Lev Schlossberg et même celui de son père, âgé de 96 ans, ont été perquisitionnés et la machine répressive russe semble s'être mise en marche.
Sylvain Tronchet, le correspondant de France Inter en Russie, merci à vous. Et les opérations d'échange de prisonniers et de corps de soldats se poursuivent entre l'Ukraine et la Russie. Kiev annonce avoir récupéré 1212 cadavres de militaires tués sur le front. C'est l'une des plus importantes opérations de ce genre depuis l'invasion russe il y a 3 ans. Entendu pour la première fois par des juges, le narcotrafiquant Mohamed Amra a été sorti de prison ce matin dans le plus grand secret et en hélicoptère pour éviter une nouvelle évasion. L'an dernier, il s'échappait lors d'une extraction. L'opération avait coûté la vie à 2 surveillants pénitentiaires. Ce matin, convoqué par les juges spécialisés, Amra va subir son premier interrogatoire, poursuivi pour meurtre en bande organisée en récidive. Le narcotrafiquant, qui a passé 9 mois en cavale jusqu'en Roumanie, dénonce également aujourd'hui ses conditions de détention ultra sécurisées. Au moins 40 autres personnes sont mises en examen dans cette affaire. Là, c'est un dossier vieux de plus de 40 ans. L'attentat de la rue des Rosiers à Paris en 1982, un juge antiterroriste a signifié la fin des investigations. Cet acte de procédure ouvre un délai d'un mois pour le parquet national antiterroriste pour prendre ses réquisitions avant la décision finale du magistrat instructeur sur la tenue ou non d'un procès. Un suspect, un palestinien naturalisé norvégien, Abou Zayed, a été arrêté, extradé et écroué en France. En tout, 6 personnes avaient été tuées et 22 blessées dans l'explosion d'une grenade dans un restaurant juif du Marais à Paris. Puis plusieurs individus avaient ouvert le feu. La circulation reprend sur l'autoroute A1. Les taxis lèvent leur manifestation à Senlis-Chamans dans l'Oise. Ils avaient mis en place un barrage filtrant. Ils manifestaient ce matin également devant le ministère de l'économie à Paris pour protester, comme ils le font depuis des semaines, contre les nouveaux tarifs de remboursement du transport de malades par la Sécu. Les représentants de la profession ont rencontré ce matin les ministres de la Santé et des Comptes publics. Et à la sortie, Rachid Boudjema, le président de la Fédération nationale des taxis, est satisfait d'avoir été entendu et veut désormais être acteur des prochaines discussions avec l'assurance maladie.
Notre réaction, elle est prudente, parce qu'on a eu un ministre quand même qui a compris que le système proposé par les services de la CNAM n'était absolument pas viable pour les entreprises de taxi. Le ministre a compris qu'on était en mesure de faire des propositions qui jusqu'à présent n'étaient pas entendues. On a fait une proposition de l'utilisation sur la base du taximètre, contrôlé par les préfets. Et aujourd'hui, la CNAM, sous le contrôle du ministre, c'est bien parce que là, ils ont été dans l'obligation d'entendre ce que disaient les fédérations. Il y a des engagements du ministre, donc nous, on a fait ces propositions. Les services de la CNAM doivent les étudier et doivent faire un retour. Donc c'est plutôt pas mal.
Prochaine réunion prévue dans 2 semaines. Rachid Boudjema, le président de la Fédération nationale des taxis, répondait à Sofia Berada. Peut-être vous ou vos enfants ont succombé aux laboubou, ces petites peluches créées en Chine ressemblant à des lapins croisés à des monstres. Mais combien êtes-vous prêt à dépenser? Une figurine géante laboubou vient de se vendre aux enchères pour plus de 130 000 euros à Pékin. Elle mesure 1,31 m, turquoise, exemplaire unique au monde de ce type. L'engouement pour les peluches a grandi sur la planète entière avec les réseaux sociaux et des stars comme Dua Lipa ou Rihanna les accrochant à leur sac à main. Les clients attendent parfois des heures dans de très longues files d'attente pour acheter un Labubu.
France Inter, partenaire du Balloon Museum, de retour à Paris avec Euphoria, Artis in the Air. Après avoir conquis plus de 7 millions de visiteurs, l'événement dédié à l'art gonflable s'installe au Grand Palais. Des œuvres spectaculaires et monumentales, signées par des artistes contemporains de renom, composent une expérience sensorielle, ludique et interactive pour petits et grands. Euphoria Artis in the Air, la nouvelle exposition du Balloon Museum, jusqu'au 7 septembre au Grand Palais, un événement France Inter.
Chaque année, près de 30 000 personnes sont secourues par les sauveteurs en mer. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, les bénévoles de la SNSM veillent sur vous. Mais n'oubliez pas que c'est grâce à vos dons qu'ils accomplissent leur mission. Depuis 200 ans, et pour longtemps, donner à terre, c'est sauver en mer. Faites un don sur snsm.org.
Travailler avec une personne de plus de 50 ans, quelle idée!
Ben moi, ça a été la réponse à tous mes problèmes. Ça fait 11 ans qu'Isabelle travaille dans mon entreprise et c'est l'employée la plus fiable. Elle se forme en continu et c'est elle qui s'y connaît le mieux en IA.
Comptons sur l'expérience des 50 ans et plus. Recrutement, formation, accompagnement. Rendez-vous sur emploi50plus.gouv.fr.
Ceci est un message du gouvernement.
France Inter, 12h06, on retrouve toute la bande originale,
oui,
à vous.
Absolument, Maggie. Merci Amélie Perrier, de retour toute l'après-midi pour l'information. Mmh. Et à très... Oh, j'aime bien ce... vous acquiescer.
Tout à fait.
Dites-moi, à 13h, ça ne sera pas la rédaction qui vient.
Mais tout à fait.
Allez,
tout à fait.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
C'est la bande originale avec Leïla, comme vous avec... Lisa, la moitié, Julie, Conti, Bruno, Péqui, Tanguy Bassureau, Aldela, Daniel Morin.
Coucou Bruno.
Et
coucou
notre
Daniel.
Invité, Thomas Njijol.
La bande originale. Leïla Kaddour et Maggie.
Non mais on va plier le game tout de suite. J'ai voulu par politesse dire Thomas Jijol pour ne pas, pour
c'est
pas poser
faute,
de problème.
C'est de ma faute.
Non.
Je pensais que ça se disait.
Parce que Kylian Mbappé aime bien aussi que le M soit mangé comme ça parce qu'il n'y a pas d'apostrophe. Mais c'est Thomas Njijol. Vous voulez que l'entende ce N là.
Vous pouvez le manger aussi. L'important c'est de l'entendre.
C'est
subtil. Njijol. Voilà. Ouais, Njijol, ça passe. Njijol. Normalement,
moi,
comme je le dis,
Pierre Inet.
Et le film, c'est Indomptable.
Voilà.
Qui sort. Oui, c'était ça la vanne.
Oui,
qui sort aujourd'hui, merci.
Mais non, c'est pas ça, c'est qu'on fait pas la blague au même endroit.
Je vous propose qu'on enchaîne.
Non, moi je l'ai fait sur... je l'ai fait sur le M.
Je pense que c'est pas mal.
Parce qu'on dit dompté, on dit pas dompté.
Je peux faire une petite précision parce que là, je le dis à la française, mais au Cameroun, on dit Ngidjol.
C'est même pas, voilà. Non, mais
compliqué. Il y en a qui écoutent l'émission, ils se disent attends, mais il dit pas vraiment. Donc voilà, il y a plein de façons différentes, mais tant que c'est bien dit, il y a pas de souci.
En tout cas, il y a une façon que vous avez adoptée, celle de passer par le polar pour montrer d'abord dans quel état était un peu la société au Cameroun à Yaoundé, quels étaient les rapports humains qui pouvaient y avoir dans cette société, que ce soit entre policiers, médecins, les organisations, l'administration aussi, les rapports même au sein de la police entre votre propre inspecteur et vous êtes le boss, vous n'avez pas peur même de le menacer pour pas qu'il y ait de corruption, pour pas que l'argent soit détourné à des fins personnelles, mais plutôt pour aider l'enquête, voire sauver la vie d'un suspect. Et puis, il y a cette transmission, ce côté père, mais qui fait écho à Pépère au podcast. C'est la question que vous posiez à vos invités aussi, c'était quel était leur comportement de père, justement, par rapport à leur notoriété et à la transmission. C'est vraiment un sujet important pour vous.
Ouais, c'est des sujets qui me passionne clairement parce que je me considère évidemment je suis père de fait, mais dans ma tête je suis encore en construction. Je sais pas si je suis.
Et
à
puis
la...
vous êtes encore le fils.
Ouais, je suis encore le fils et je sais pas si je suis vraiment à la hauteur. Et c'est vrai que ces discussions là, moi je les trouve passionnantes entre nous déjà dans le cadre purement amical d'entendre les gens comment ils se débrouillent, comment ça se passe avec leurs enfants et tout. Et je pense que ça correspond aussi à l'autre étape de la mienne, de ma vie quoi.
Oui, puis il y a des phrases que vous dites dans le film qui font écho, je pense, à beaucoup de mamans ou beaucoup de papas sur le rapport que l'on a vis-à-vis des enfants. C'est-à-dire, être l'autorité, mettre un cadre et une rigueur, et essayer d'être pote un peu, essayer d'être, voilà, de servir, de servir un coca. De...
Ça, c'est vrai que ça marche jusqu'à un certain âge. Après, d'être pote, je sais pas trop, mais...
Il y a des phrases aussi où on dit « t'es pas mon pote », quoi.
Ouais, bien sûr, mais c'est, franchement, c'est les montagnes russes. Moi, j'ai ce rapport-là avec toutes mes filles, et puis il y a des fois où je retrouve mon père, des fois, des réactions.
Dans les phrases que vous dites ?
Ah oui, même, vous entendez ? Et puis surtout dans les silences, quand je suis très, très en colère ou très énervé, ils comprennent dans mes yeux que c'est fini, en fait.
Le silence, c'est de la peur de dire quelque chose qui pourrait blesser, ou c'est de transmettre dans le regard une déception ?
Ah, ça serait terrible. Ça, je l'ai jamais eu encore. Ça, j'ai jamais eu la déception dans le regard. Mais je pense que, au-delà de tout, parce que je me mets pas en hauteur de tous ces mots qu'on peut avoir et ces difficultés qu'on a à communiquer et tout. Mais ce qu'il y a d'agréable, en tout cas aujourd'hui, c'est qu'on a des réponses. On a on sait, en fait, on sait situer les choses. Donc, c'est un peu ce que fait ce film. C'est que je ne dis pas, oh, il faut faire comme ça ou comme ci, mais je pointe des comportements où, voilà, certains, peut-être se reconnaîtront ou connaîtront des choses qu'ils ont connues. Et du coup, je trouve que c'est intéressant. Rien que ça, c'est un avancement, on peut dire. Voilà.
Pour reprendre la comparaison faite par Leïla en début d'émission, il y a ce côté Clint Eastwood, mais c'est encore une fois... Non, mais c'est vrai. Et elle a raison, dans la dégaine, dans l'élégance, même si les idées véhiculées ne sont pas les mêmes, mais en tout cas dans la forme, il a ce costume, et le jeu de la cravate est important aussi, la posture...
Économie de mots aussi.
Exactement. Et puis, nos limites pour les interrogatoires, quand il faut interroger...
Il faut du prunier.
Ben, s'il faut accrocher un suspect c'est par vrai. Les pieds, on le fait.
Oui. Bon, c'est le côté cinématographique, ça. C'est qu'on est au cinéma, il faut donner un peu de rêve, il faut donner un peu. Il faut être un peu sulfureux par moment.
Et puis il y a des abdos. Il y a un gars qui est.
Ah oui, d'accord, parce que je me disais les miens. Mal renseigné.
Vous êtes en costume de
Ouais, moi je.
Mais
c'est bien.
Il y a un suspect qui a des abdos, mais de ouf.
Ouais. Et le pire, c'est ce genre de mec, il travaille pas beaucoup en fait. Oui.
Il est naturellement gaulé.
Ah ouais, il fait 2-3 tours de terrain et puis il a des abdos.
Et le foot est un clin d'œil aussi. Le foot féminin est présent dans le film. Les rapports à l'éducation. Quand même un portrait de la situation actuelle à Yaoundé, mais vous pouvez aussi le vivre comme une histoire humaine d'un rapport père-enfant, enfant-parent, et puis aussi dans le couple, le regard sur l'enquête, les rapports entre l'inspecteur et son boss, il l'appelle le boss tout le long, qui n'a pas peur de faire usage de son arme pour écarter des voisins un peu trop...
je veux pas spoiler, mais c'est vrai que oui, en plus sur l'affiche j'ai un flingue, donc c'est vrai que quand l'affiche est sortie j'en recevais plein de messages, waouh, tu fais John Wick en Afrique et tout. J'étais persuadé que j'allais canarder tout le camion, j'ai dit non, c'est pas tout à fait le film.
Mais c'est quand même vous qui avez décidé de le mettre sur l'affiche.
Ouais, mais je trouve que ça donne un côté nerveux, mais c'est sûr que l'arme à feu, j'avais pas une envie folle de faire des scènes de canardage ou autre.
Vous vous en servez, on dira pas sur qui ni sur quoi, mais c'est dans le film et ça sort aujourd'hui, ça s'appelle Indomptable, on vous encourage à le voir. Voici Tanguy Passureau.
Bravo. Hier, j'étais sur Internet, je consultais le classement des célébrités les plus bronzées de France. Numéro 1, Christian Estrosi. Numéro 2, Jean-Pierre Foucault. Louis Garrel apparaît en avant-dernière position, juste devant Houellebecq, qui a déjà sa couleur de quand il sera décédé. Quand soudain, je me suis mis à recevoir, à cause des algorithmes, des tas de contenus liés à la mort. Ça me va, je suis macabre. J'aurais pu devenir gothique et me promener avec un collier de cuir clouté, mais j'ai peur, si à cause de l'âge, je me mets à faire pipi dans pleine rue, d'être pris pour un teckel abandonné et finir à la SPA. J'ai notamment vu un poste de Santé publique France sur les passages aux urgences suite à des tentatives de suicide. Alors, c'est divisé en catégories d'âge. Il y a les 25-64 ans, les plus de 65, les 18-24, on apprend qu'il y a surtout des filles, mais il y a aussi les 11-14 ans et même les 0 à 10 ans. J'imagine que ça commence plutôt à 8 ou 9 ans. J'ai rarement entendu parler d'un nourrisson de 4 jours qui se jette de son berceau en criant « on n'a pas passé le week-end, que je suis déjà déçu par la vie ». Ou alors, c'est un bébé marseillais à qui on a raconté l'épopée récente du Paris Saint-Germain. Mais ça m'a marqué parce qu'on n'imagine pas que des enfants se suicident. Dans l'imaginaire collectif, les enfants Ce sont juste ces êtres étranges qui portent des t-shirts Minecraft et font du bruit en continuant à tirer sur la paille du Capri Sun quand il est vide. Quand on voit un enfant, on refuse de penser qu'il puisse être en détresse. On se dit, ça doit fonctionner comme les Schtroumpfs. Même les jours où Gargamel a écrasé par mégarde la moitié des maisons champignons, bah, le soir, ils font la fête. La vie des Schtroumpfs est pourrie. Déjà, ils sont bleus. Ça va avec rien. Ensuite, il y a une femme pour 100 hommes. Tinder chez eux, c'est l'appli la moins sympa de tout l'iPhone. Et puis, ils vivent en pleine nature comme des zadistes. On dirait tellement une émission de Frédéric Lopez que je suis toujours surpris de ne pas avoir débarqué dans le village Michel Fugain en veste à carreaux, quoi. Et ben, malgré ça, ils sourient les Schtroumpfs. Ils avancent, ce sont des battants. Et ben, les enfants, on les voit un peu comme ça juste parce qu'ils aiment Pikachu. On se dit, ils sont heureux. Alors que pas forcément, pas tous. Et les collégiens, encore moins. J'ai moi-même été collégien il y a longtemps, à l'époque de Louis le Pieux. Alors certes, j'ai eu des joies. Un jour, une fille m'a fait un clin d'œil. J'ai appris plus tard que c'était une allergique au pollen. Une pionnière, hein, si elle se trouve, elle était aussi intolérante au gluten. Mais c'est une période difficile, le collège. On se cherche un groupe, une meute. Parfois, on n'en trouve pas. Je sais que ça paraît difficile à croire, maintenant que je suis une idole, le petit fiancé oui. de la France. Mais parfois, à la cantine, je me retrouvais seul face à mes œufs mimosa. C'est de là que me vient cette passion pour la mayonnaise. J'avais une santé mentale en friche. Mais il n'y avait pas de réseaux sociaux. Et puis, on avait des parents, des proches à l'écoute. Parce que tout le monde n'avait pas le nez tout le temps dans ces saletés de smartphones qui nous ont connectés à du vide et nous ont déconnectés les uns des autres. Ok, parfois, ils regardaient Patrick Sabatier à la télé, les parents, mais c'était pas 24 heures sur 24. Sabatier, on l'avait pas dans la poche. Ou alors, c'est qu'on le connaissait très, très bien. Et qu'en activité annexe, il faisait porte-clés, mais ça aurait froissé ses cheveux. Non. Tout ça, c'est juste un ressenti. Hein. Et récemment, Lila Kadour en a parlé. Elle-même doit se dire, mais de quoi? Je dis tellement de choses intéressantes. Eh bien, d'Elisabeth Borne. Ah. Vous vous souvenez, cette dame, elle-même borderline, qui a gouverné par 49-3 et a rongé avec ses dents de devant 700 vapoteuses. Oh, wow. Et désormais, ministre de l'Éducation nationale. Et je vais pas revenir sur tout ce qui se déroule dans les collèges, mais disons qu'il se passe pas deux semaines sans que parte un coup de couteau. Je sais pas si c'est TikTok, si c'est l'après-Covid, je sais rien. Il y a des spécialistes qui étudient ces questions-là. Moi, mon job, c'est de n'avoir à approfondir aucun sujet en particulier. Oui, c'est un job de rêve. Et donc, Borne, parmi les idées avancées, a eu celle de diffuser dès la classe de quatrième la série Adolescence de Netflix. Ok, pourquoi pas. Moi, au collège, on m'avait montré le film Une saison blanche et sèche sur l'apartheid en Afrique du Sud. Ça m'a guéri à vie du racisme. Et en sciences nat, on nous avait montré un film sur la reproduction. Ça m'a guéri pendant des années du sexe. Rien que de penser qu'on avait des espèces de tétards qui sortaient de nous, ça me dégoûtait. J'avais l'impression d'être un étang. Je criais aux autres, il était interdit de me plonger dedans. Les images ont une force. Et en même temps, je me dis que montrer une série, c'est tellement dérisoire par rapport à l'étendue du chantier. Puis quoi, si on apprend qu'il y a une vie extraterrestre, on va diffuser Alf aux gens. C'est l'arbre qui cache la forêt, comme on dit à Fontainebleau. Parce que la forêt, c'est l'état de la pédopsychiatrie dans ce pays. Un jeune qui plante un membre du personnel de son établissement ou un autre jeune a besoin de cadre, d'autorité, mais aussi d'un professionnel de la santé mentale. Parce que personne d'équilibré ne poursuit qui que ce soit avec un couteau. C'est statistique. Si vous êtes bien, vous profitez du printemps, vous lisez dans un parc, vous faites de l'amour avec quelqu'un qui n'est pas de votre famille. C'est ça, être équilibré,
oui,
quoi.
Hein,
ok, les portiques à l'entrée des collèges, ok, la série Netflix, mais moi, ça fait des années que je lis des articles parlant de l'état d'élabrement de la psychiatrie et de la pédopsychiatrie en France. Exemple à Nantes. À Nantes, un décès et trois blessés dans une attaque au couteau en lycée récemment, et les professionnels parlent d'état déplorable de la pédopsie sur place. Pas état moyen ou état déplorable. On parle là-bas d'ados hospitalisés dans des chambres d'isolement en psychiatrie adulte, faute de place en pédopsychiatrie. Spoiler, ce sont pas les mêmes gens en fait. Si à 30 ans tu aimes manger de la semoule, on te met pas en EHPAD. Un pédopsychiatre dit au quotidien Le Télégramme, à des parents en pleurs, on répond d'attendre des mois. À Lens, le service de pédopsychiatrie n'a plus de médecins, et dans les campagnes, n'en parlons pas, ils ont même retiré les boîtes aux lettres. L'État n'est plus là, donc la santé mentale. Vous avez compris que la série Netflix, elle est là juste parce que derrière, il n'y a plus rien qui roule. Un pays qui néglige ses enfants à ce point est un pays en perdition. Je vous avais dit que j'étais macabre.
Merci, Tanguy Bossureau.
Ça reste une très bonne série.
Ça n'empêche pas. Ouais, en spectacle le 27 novembre prochain, et où ça?
À Poitiers.
Absolument.
Ah, oui.
Ils font à deux voix maintenant.
Ouais, à deux voix maintenant.
Trop fort. Dans ces Poitiers, oui.
Indomptable, c'est Thomas Ndijol qui est notre invité jusqu'à midi et demi avec ce film qui a été difficile à monter, à produire, à réaliser, ou au contraire, ça a été que du bonheur.
À produire, non, c'était pas simple, mais j'ai travaillé avec un producteur qui connaissait le sujet, qui avait déjà fait une adaptation en plus de Doc, Pascal Cocheteau, avec qui j'ai déjà bossé, qui avait fait le film de Desplechin, Roubaix une lumière, qui est aussi une adaptation de Doc, donc je partais quand même sur de bonnes bases, et qui connaît le film d'auteur, donc j'étais bien accompagné. Et puis,
parce que vous voulez que ce polar raconte quelque chose, qu'il dise quelque
c'est
chose,
ça,
que ce soit pas juste une enquête, quoi.
Bah, si on voit que le Doc, on se dit où tu veux aller, quoi. Tu vois,
Meurtre à Yaoundé, quoi.
Voilà, ça aurait été peut-être, ouais. Bon, ça aurait été un autre film, peut-être que ça aurait été bien, mais différent en tout cas. Mais j'étais bien accompagné à ce niveau. Et puis après, oui, à réaliser, tout était dur parce que j'avais cette double casquette. J'étais dans un autre territoire. J'étais au Cameroun avec d'autres codes et tout. Mais il y avait quand même ce supplément d'âme. Mmh. Ça, c'est sûr que c'était dur. Mais le supplément d'âme sur place...
Il y est. Ça passe et ça marche.
Il voulait vraiment que ça fonctionne. Il voulait le meilleur pour moi et le film, donc c'était super.
Le film sort aujourd'hui. D'autres événements culturels, Leïla.
D'après vous, quel est le point commun entre le Louvre, Chambord, Versailles, l'Arc de Triomphe, par exemple?
Des travaux.
Il en sera question de ce point commun à partir du 1er janvier 2026. Ce ne sont pas des travaux,
interdit
même si
aux enfants.
Ils en ont besoin parfois.
Interdit aux enfants.
La gratuité, au contraire, pour certaines populations.
Non. C'est pas la gratuité, non. C'est le contraire.
C'est payant. Tout est payant.
Augmentation des tarifs.
L'interdiction.
Doublement.
Augmentation, oui, mais pour qui?
Ah, pour les gens qui ne sont pas européens.
Absolument.
Ah, quoi?
Wow.
À partir du 1er janvier 2026, si vous allez au Louvre, par exemple, vous paierez plus cher si vous êtes un visiteur non européen. C'est-à-dire que vous êtes britannique, vous êtes nord-américain, vous êtes chinois, japonais. Vous paierez plus cher que si vous êtes ressortissant de l'Union européenne.
C'est comme ça, hein.
Alors, c'est une pratique qui existe déjà dans beaucoup de pays.
Il y a beaucoup de pays.
Bien sûr. Et du coup, les Suisses aussi, non?
L'idée.
Ouais. Ah, ouais.
L'idée, ça,
j'ai trois passeports.
Ah, ben voilà, tu sors. Alors, justement. L'idée, c'est de faire participer ces touristes que je viens de citer et tous ceux qui seront donc concernés par l'augmentation du tarif à l'entretien des sites qui en ont besoin. L'idée, c'est de ramener de l'argent, bien entendu.
Et un étranger coûte plus cher.
C'est-à-dire qu'on va imaginer qu'il va devoir apporter une contribution supplémentaire, supérieure à un Français, en tout cas de papier, etc., etc.
Peut-être que les Européens payent déjà des taxes pour la culture.
La question que ça soulève, et elle est intéressante, c'est qu'est-ce que tu fais des binationaux? Donc tu choisis donc le passeport qui t'arrange. Et surtout, la journaliste Francine Guillou, dans Télérama, soulève un truc hyper intéressant. Si tu viens voir au Louvre le scribe accroupi, qui est quand même une œuvre qui est assez ou alors un sarcophage, n'importe quelle œuvre qui vient d'Égypte.
C'est gratuit pour l'Égypte.
Non, quand tu es un couple d'Égyptiens, tu vas te retrouver donc à payer plus cher pour voir quelque chose qui a été découvert dans ton pays par un archéologue français certes, ou qui a été prêté, envoyé, voilà. Bon, ça non, pas au Louvre. On peut pas soupçonner le Louvre de ça, mais en tout cas, des œuvres qui auraient été retrouvées dont on se serait d'une façon un petit peu comment patriarcale et coloniale, considérer qu'elle nous appartenait.
Ils vont mettre un péage sur la place de la Concorde pour voir l'obélisque.
Je ne sais pas. Donc en tout cas, voilà ce que ça soulève comme question de la restitution des œuvres d'art, la façon dont on imagine qu'on peut conserver sur son territoire une œuvre qui n'appartient pas vraiment à notre territoire, et donc créer une sorte de discrimination d'une certaine façon par rapport aux populations, et même si en effet, comme l'a dit Tanguy, c'est une pratique qui existe déjà à l'étranger, qui existe aussi d'une certaine façon en France. Est-ce qu'il y a une œuvre en particulier, Thomas, qui vous fait du bien, que vous aimez voir, qui vous touche par sa beauté, qui vous réenchante?
Moi, c'est la musique. C'est je suis musée moyennement, mais moi, c'est la musique.
Une œuvre musicale.
J'aime bien, par exemple, Bocelli. Je pourrais même pas vous dire laquelle, mais c'est une reprise d'une chanson qui me fout des frissons. Mais je l'écoute très rarement. Je l'écoute de temps en temps.
Pour
mais...
pleurer.
Non, j'écoute pas pour pleurer. C'est complètement maso.
Mais
non.
On a des chansons pour pleurer.
Non, c'est une chanson qui m'amène. J'ai une culture un peu, je sais pas, de la motivation un peu sportive. Donc il y a des fois des musiques qui me mettent dans des états avant de monter sur scène, notamment où j'ai besoin de ça, quoi. Mais je suis très culture musicale.
Quand vous étiez footeux, pardon, vous écoutiez de la musique justement dans les vestiaires avant de rentrer sur le terrain, parce que vous avez beaucoup joué au foot.
Ouais, j'ai beaucoup joué. Non, mais moi je jouais à un niveau amateur.
Vous pouvez avoir des écouteurs quand même.
Ouais, mais on était non. Oui, c'est vrai qu'on se prenait très au sérieux, mais on jouait très mal.
Puis ça fait partie du look maintenant d'avoir les.
Mais
un
chez
casque.
Les pros, nous on nous filmait pas. Nous on nous filmait pas. On venait avec des sacs en plastique minable, mais en fait, non, mais c'est génial. Moi j'ai joué en amateur. C'était des années de bonheur. C'était jusqu'à maintenant, je vais vous dire, je suis en rééducation parce que j'ai un petit problème ligamentaire, rien de méchant, mais je fais tout pour revenir dans le foot.
Vous étiez à Munich.
J'étais à Munich, ouais. Ça, c'était l'apothéose. En fait, c'est...
Pour la
c'est
finale.
En fait, au-delà de l'apothéose, c'était la guérison de toutes ces années de souffrance. C'était en fait comme si on nous mettait un pansement, on dit c'est bon, vous faites partie du club, des winners maintenant. Donc, pour quelqu'un comme moi qui suit le PSG depuis tout petit, qui a été en 96 envahir le Parc des Princes quand on a gagné la Coupe de la Coupe des Coupes, quoi, la première Coupe d'Europe.
Face au Rapide de Vienne.
Ouais. Exactement, et qui a vécu des années avec les skinheads, qui s'est fait poursuivre par les skinheads à un âge. Ah bah oui, quand on était petit, c'était pratique fréquente. Fallait sortir à la 80e, sinon tu tombais face à la tribune Boulogne et puis c'était parti. Mais j'étais jeune, donc je pouvais.
Je courais vite.
Ouais.
Je m'étais pas fait les croisés.
Une sorte de kirikou de alentours du Parc des Princes. Tac, 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 tac. Non, mais c'était la folie, quoi, cette époque. Donc, c'est vrai que maintenant, voir ce club arriver là, bah, c'est émouvant. Mmh. C'est émouvant, c'est beau. Je suis guéri.
Question, Leïla.
Oui. 15 ans d'absence et un retour sur scène. Et en parallèle, une collab avec Amazon. De qui est-ce que je parle ?
Sting.
C'est un groupe.
Ah merde, non.
C'est pas Sting, mais Sting revient. Ouais. Enfin,
j'ai croisé dans l'ascenseur, c'est pour ça.
C'est un groupe qui ne s'est pas produit depuis plus de 15 ans et qui un groupe connu pour sa mésentente.
Oasis
revient, 40 concerts annoncés, avec toutes ces histoires, vous savez, de tarification dynamique qui ont fait que les prix ont explosé, les arnaques, les tentatives dans tous les sens. Eh bien, ils annoncent encore aussi, pour faire parler d'eux sans doute, une collection capsule avec Amazon. L'idée, c'est de sortir tous les 6 mois des vêtements qui retracent les moments les plus forts du groupe. Mais alors que ce soit des t-shirts, des suites, avec... par exemple, couvertures d'albums qui rappellent, par exemple, le concert de Wembley en 97 pour les grands fans. En fait, donc tous les 6 mois, ils vont sortir quelque chose. Alors,
et Liam a lui-même une marque de prêt-à-porter depuis 20 ans, voilà, qui s'appelle Pretty Green et qui est bien.
Et voilà, donc il continue justement dans ce sillage-là du vêtement pour continuer à vendre des choses. Est-ce qu'il y a un groupe qui vous a déçu avec le temps?
Un groupe qui m'a déçu avec
les Doobie Free.
Non. Déçu avec le temps. Non. C'est un artiste que j'aime beaucoup et en plus je l'ai croisé dans la vie. C'était Doc Gineco qui a fait partie de mon enfance. Et c'est vrai que le virage politique, j'étais perturbé. Mais après, c'est pas grave. Sa musique elle reste et son album il est iconique. Voilà.
Comme Faudel.
Thomas Gijol avec Indomptable. C'est aujourd'hui au cinéma et on vous l'a dit. On a aimé ce film. On vous encourage à le voir. Parmi tous les projets, il y a Paname Flash 80, film réalisé par Jean-Baptiste Sorel avec François Damien. C'est Laure Calamy, ça sent la comédie.
Avec, c'est pas Laure Calamy, c'est Audrey Lamy.
Ah, pardon.
C'est pas grave, tout va bien.
Moi j'avais Laure Calamy, mais
Et le film s'appelle maintenant Police Flash 80, mais ça sera pour l'année prochaine.
Okay.
Ouais. Ok, j'ai tout faux, j'aurais
mieux
fait de
me taire. Non, mais c'est pas grave, Nagui.
Ça s'appelle toujours Indomptable, celui qui sort aujourd'hui.
Celui qui sort, c'est toujours Indomptable.
Et c'est signé Thomas Gijol et c'est réussi. Des excuses à présenter, Daniel.
Bien sûr, déjà, désolé pour notre invité, Thomas Gijol, qui a eu l'impression de vivre dans un tunnel de gênance pendant la digression pourtant très audacieuse d'Oldolaf.
Non.
Merci Thomas, merci de vous être exprimé. Imaginez, nous on vit ça tous les jours, et croyez-moi, on chiale. Désolé pour tous nos auditeurs SM qui se sont sentis tout excités en imaginant Tanguy, le petit fiancé de la France, en collier de cuir clouté. Alors oui, c'est assez hot comme image et sachez que quand il est en collier de cuir clouté, il ne porte rien d'autre. Petit coquin, va.
C'est gênant.
Désolé pour Thomas Gijol que Nagui a appelé toute l'émission Thomas Gigol. C'est pas grave, faut bosser pour les prochains invités.
Il m'a appelé Najoui.
Alors c'est demain, ce sera Caroline Anglade, là ça devrait aller, mais pour Redouane, c'est Bouguerabane.
C'est noté.
Ok,
merci.
Très bien, ce sera quand même le pire.
Merci Thomas Gijol et encore bravo.
Merci.
Bravo
pour l'invitation.
Réussite pour cette Indomptable. Merci. Et c'est Dorothée Barba qu'on retrouve tout de suite. Bonjour Dorothée, où êtes-vous aujourd'hui?
Bonjour Nagui, nous sommes toujours au Théâtre du Peuple à Bussan, dans les Vosges, sur cette scène un peu magique, car elle est ouverte sur l'extérieur. La forêt est un décor au fond de la scène. Le public est là. Oui. Mes invités aussi. À tout de suite.
Bonne émission Dorothée, merci.
J'avais peur que tout le monde remarque que je porte des aides auditives.
Sylvie nous parle d'Audica Blink Mini.
Mais elles sont invisibles en fait. Et je peux à nouveau bien entendre mes amis, la musique que j'aime, parler avec des gens sans avoir peur qu'ils les remarquent. Je peux rester moi-même quoi.
Comme Sylvie, découvrez Audica Blink Mini, les aides auditives intra-auriculaires dernière génération, discrètes et performantes. Prenez rendez-vous pour les essayer gratuitement pendant 30 jours. Audica, expert et à votre écoute. Dispositif médical sur ordonnance, demandez conseil à votre audioprothésiste, consultez attentivement la notice.
Si vous aimez la qualité, essayez-la à prix discount. Ben oui, chez Aldi, nos fruits et légumes ont tout de très bons fruits et légumes. Tendres, savoureux et parfois agrémentés d'un petit... Ah moi, les fruits et légumes, ça me donne une forme olympique. Oui, vraiment, ils sont très bons, mais à prix discount, puisque nos clients les payent 23% moins cher que la moyenne du marché. Eh ouais, Aldi, la meilleure qualité, à prix discount. Source Kantar, prix moyen payé au kilo de fruits et légumes chez Aldi versus prix moyen payé au kilo sur le marché, cumule 4 semaines au 23 mars 2025.
France Inter, partenaire de la quinzaine en salle. Découvrez près de chez vous les films de la nouvelle édition de la quinzaine des cinéastes. Dans plus de 30 salles de cinéma de toute la France, venez fêter en avant-première cette sélection libre et audacieuse. Prolongez l'expérience du Festival de Cannes grâce à cet événement unique en son genre. La quinzaine des cinéastes jusqu'au 30 juin dans une trentaine de salles de cinéma. Un événement France Inter.
France Inter, il est midi et demi. Les carnets de campagne au Théâtre du Peuple de Busan, c'est dans un instant. Voici d'abord les titres du 13-14 depuis le studio de France Inter à Paris. Bonjour Jérôme Cadet.
Bonjour Dorothée, bonjour à toutes et à tous. Nous reviendrons tout à l'heure dans le 13-14 sur le drame de Nogent hier en Haute-Marne, cette surveillante tuée par un collégien. On va s'interroger sur la responsabilité des réseaux sociaux. On n'a pas plus d'informations dans cette affaire précisément, mais hier soir le chef de l'État a demandé à ce qu'on avance sur l'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans. Est-ce qu'il y a un lien entre surexposition et réseaux sociaux et violence? On va se poser la question tout à l'heure et puis on verra quelles sont les dernières informations sur ce qui s'est passé précisément là-bas hier matin. L'intelligence artificielle, on en parle à partir de 13h30 à l'occasion de l'ouverture du salon Novatech à Paris aujourd'hui, qui s'intéresse à l'innovation technologique. L'IA dans la grande distribution. Quand vous faites vos courses, l'intelligence artificielle est déjà partout et de plus en plus présente. On va vous expliquer comment, dans les rayons, dans les commandes, dans la gestion des stocks, dans la surveillance aussi des caisses. On en parle avec vous, 01 45 24 7000. Venez nous parler si vous êtes notamment responsable dans la grande distribution, si vous y travaillez ou simplement client. Nous sommes à l'aéroport d'Aurillac toute cette semaine, l'un des plus petits de France. C'est notre feuilleton. Et puis nous écoutons Maxime Le Forestier grâce à Frédéric Pommier qui est demandé par la chanteuse Vinda, mon frère, qui est un titre que nous apprécions beaucoup. À tout à l'heure.
Merci Jérôme. À tout à l'heure, 13h.
France Inter. Dorothée Barba.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le jubilé du Théâtre du Peuple méritait assurément une semaine d'émission spéciale. Ce théâtre qui ressemble à une très grande cabane dans la forêt, fête en 2025 ses 130 ans. Et c'est ce mot « jubilé » qui a été choisi comme résumé de l'événement. Car la fête veut embarquer le public du théâtre, bien sûr, mais aussi le village. Les habitants et habitantes de cette commune rurale des Vosges, Busan, 1200 habitants. Il s'agit ici d'inventer un théâtre au plus proche du territoire. Nous avons l'habitude, dans les carnets de campagne, de mettre en lumière les initiatives qui rapprochent la création artistique du public rural. Aussi était-il tout naturel de venir poser nos micros pour une semaine sur la scène du Théâtre du Peuple. Soyez les bienvenus.
Carnet de campagne, le journal des solutions.
Et le public est venu nombreux au Théâtre du Peuple. Un immense merci à vous. Et ça tape du pied, allons-y carrément. Merci à vous pour cette présence. Nous partageons la scène avec le jeune Émile Auro, que vous retrouvez dans un petit quart d'heure pour le tant attendu spécial jeune du mercredi.
Salut, oui,
Nicolas Stouffler.
Je vais aller en coulisses parce que je vais aller voir les jeunes qui sont en train de se préparer et je vais leur demander leur prénom. Bonjour, quel est ton prénom?
Éline.
Et toi, ton prénom?
Noé.
Un duo de collégiens, collégiennes, collégiens qui vont jouer après carnet de campagne au jeu des 1000 euros, Dorothée.
Génial. Merci Nicolas, à tout à l'heure. Et j'accueille mes invités du jour. D'abord la patronne, madame la directrice du Théâtre du Peuple, qui est aussi comédienne et metteuse en scène. Elle jouera cet été son spectacle intitulé « Je suis la bête », ici même. Bonjour Julie Delisle.
Bonjour.
Vous êtes notre invitée fil rouge toute la semaine. Merci de nous accueillir dans ce magnifique théâtre. Et je reçois aujourd'hui Colline De Santis. Bonjour à vous.
Bonjour.
Bienvenue dans les carnets. Vous êtes la fondatrice d'un café ambulant qui s'installe dans les communes et les hameaux où il n'y a plus de commerce, le Vroom Café. Votre installation dans les Vosges est toute récente. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de venir ici, à Busan?
Alors, ma famille maternelle est originaire de Busan.
Et des portes se sont fermées dans le Cantal, d'autres s'ouvraient ici. Donc c'était voilà, une nouvelle aventure, tout recommencer. Et l'avantage des commerces ambulants, c'est que si moi aussi j'ambule, eh ben, mon commerce et mon emploi ambulent avec moi.
Oui. Est-ce que vous avez un itinéraire qui est défini ou ça change chaque semaine ?
En ce moment, le mercredi et le vendredi, je suis au lac de Crut. Le samedi matin, je suis au marché du Thiot. Et le dimanche, je suis le long de la voie verte sous le gros tilleul à Bussan.
En tout cas, vous choisissez les communes où il y a peu ou pas du tout de commerce. Hein. C'est vraiment ça la ligne de conduite ?
Alors, à terme, oui. Pour le moment, enfin, je viens sur Bussan depuis que je suis toute petite, mais je ne connais pas le territoire. Donc, c'est aussi un peu un appel aux communes qui ont besoin de ce genre de commerce sur leurs communes, les hameaux, où il n'y a plus trop de... où les commerces sont fermés. Donc, pour le moment, je vais quand même à des endroits un peu plus touristiques et les endroits qui m'ont dit OK. Mais à terme, oui, c'est d'aller dans les communes où il n'y a plus trop de commerce. Tout est fait pour qu'on se sente bien, qu'on s'installe, qu'on prenne le temps. Et je choisis des endroits aussi qui s'y prêtent. Donc de la nature, de l'herbe, les oiseaux, l'eau qui coule.
Et vous n'avez pas besoin d'électricité, je crois.
Ah oui, je suis 100% autonome.
Comment on fait le café sans électricité ?
À la main. Donc je moue mon café avec ma machine qui fait beaucoup de bruit. Et je presse mon café avec que des machines manuelles. Donc,
Et ça, c'est important pour pouvoir aller partout.
Ouais, c'est essentiel. Bah, ça fait découvrir aussi des manières autres de faire le café. Et je n'ai que des bons produits, du café de spécialité.
Voilà, le Vroom Café propose aussi des gâteaux. Et je peux vous dire, pour avoir goûté, que c'est absolument délicieux. C'est à Bussan et bientôt dans d'autres communes. On a bien entendu votre appel et on le relaie sur l'antenne de France Inter pour des hameaux ou des communes qui auraient besoin d'être une étape de ce café ambulant.
France Inter, carnet de campagne.
Toujours au Théâtre du Peuple, à Bussan, dans les Vosges, sur la scène de ce splendide théâtre qui est ouvert sur la forêt. Julie Delisle, je rappelle que vous en êtes la directrice. Quel lien faites-vous entre vos deux missions, entre vous qui dirigez un théâtre et Colline de Santis qui conduit un café ambulant ? Il y a un pont à faire entre vous deux ?
Ah oui, il y a un pont évident, et Colline l'a dit, c'est la question du lien et de la relation humaine de qualité, peut-être même du soin aussi, de cette relation. Colline prend beaucoup soin quand elle accueille les gens, il y a ce soin de fournir des bons produits, il y a ce soin de mettre les gens autour de la table pour qu'ils échangent, d'y faire des rencontres incroyables. Et ce besoin de lien, il est nécessaire, je pense même à la survie dans l'état du monde actuel. Voilà. Donc, à nos deux échelles, on fait exactement le même travail, je crois.
Parlons, s'il vous plaît, du bourgeon bussonnais. Alors, les bussonnais, ce sont les habitants et habitantes de Bussan. Et le bourgeon, c'est une expression que vous avez empruntée au philosophe Bruno Latour. Le bourgeon bussonnais, c'est une expérimentation qui fait dialoguer le théâtre et la sociologie. Vous avez associé une sociologue à votre théâtre, Julie Delisle. Quelle est sa mission, précisément, à cette sociologue ?
Alors, cette sociologue chercheuse qui s'appelle Anne Labi, sa mission, ça a été, à mon arrivée, de se poser ensemble la question de ce que pouvait bien être un territoire, puisqu'on me demandait de penser un projet pour le territoire, et j'avais pas une once de vague idée de ce que ça pouvait être que le territoire.
Et c'est un mot qu'on emploie à toutes les sauces.
Voilà, donc comme ça voulait un peu rien dire et tout dire, je me suis dit, tiens, je vais consulter quelqu'un qui semblerait compétent en la matière, et j'ai rencontré Anne Labi, et je lui ai parlé de mes questionnements autour du territoire. Elle m'a dit, on peut y répondre de plein de manières différentes. Et on est parti ensemble, effectivement. Anne, c'est quelqu'un qui est une sociologue étonnante. Elle fait de la sociologie, je dirais, par les pieds. Elle arpente, elle est avec les gens, on s'est beaucoup retrouvés là-dessus, dans la question de la relation humaine, etc. Et c'est vraiment quelqu'un qui vient partager. Dans ses échanges avec les gens, elle nourrit une réflexion qui, moi, me fait beaucoup avancer. Sur comment je peux penser les projets qu'on porte au sein du Théâtre du Peuple. Et on s'est inspiré de ces démarches où atterrir, mises en place par Bruno Latour et qui sont relayées maintenant aussi par sa femme Chantal Latour, puisque Bruno est décédé. Mmh. Et on s'est dit qu'on allait inventer notre propre bourgeon. Et puis on a appelé le bourgeon Busnet, parce qu'ici c'est les Busnets et les Busnettes, et puis que ce mot il est super beau.
Oh, les Busnettes, c'est vraiment
ouais,
très
c'est
mignon.
Vraiment mignon.
Et qu'est-ce que ça va devenir, cette étude sociologique? Qu'allez-vous en faire ensuite?
Alors oui, on a terminé la première étape, qui est vraiment cette partie de l'étude qui est disponible, qui est sur notre site internet, avec les habitants, voilà cette enquête. Et l'idée c'est de commencer à faire un tout petit peu bourgeonner le bourgeon, donc réunir un certain nombre de personnes, ça va se passer dans le courant de cet été, qui seraient intéressées par participer à cette démarche d'enquête. Voilà, rejoindre un petit groupe d'enquêteurs.
Être un échantillon.
Voilà, oui, moi je veux bien être échantillon, je veux bien enquêter, je veux bien devenir expert de ma question, et puis se mettre ensemble et se poser des questions liées au territoire pour arriver à le définir peut-être. Probablement qu'on n'arrivera jamais à le définir. Mais l'idée, c'est d'être dans la démarche, en fait.
Et pour répondre à la question, qu'est-ce que Bussan? Que sont les Vosges? C'est ça l'idée?
Peut-être que les questions, on ne va pas les formuler à l'avance. On va laisser les gens les formuler. Peut-être qu'ils vont avoir envie de parler du Grand Tétra. Peut-être qu'ils vont avoir envie de parler du loup. Peut-être qu'ils vont avoir envie de parler de la fermeture des paysages. Peut-être qu'ils auront envie de parler du manque de lieux de lien pour eux. Ça va venir d'eux, en fait. Et on va s'accompagner. Et comme on est un lieu de création artistique, c'est très important qu'à l'intérieur de ça, il y ait des artistes créateurs.
Mais alors justement, c'est ce que j'allais vous dire. Est-ce que c'est bien la mission d'un théâtre que de faire travailler une sociologue, Julie Delisle?
En tout cas, je ne sais pas trop ce que c'est qu'un théâtre, c'est comme le territoire.
Oh, regardez là, vous avez un tas de monde sous les yeux.
Donc, j'ai l'impression que c'est plein de gens. En tout cas, si on s'inspire de Potcher, lui ce qu'il
Maurice
dit...
Maurice Potcher, le créateur du Théâtre du Peuple.
Tout à fait. Lui ce qu'il dit, c'est que c'est le théâtre, ou ce qu'il essaye de faire, c'est de mettre des gens dans un même espace pour ressentir des émotions communes. Et que c'est ces émotions communes qui vont créer l'humanité, qui vont faire humanité. Je crois que tous les moyens sont bons pour faire humanité. Il faut lésiner sur rien, surtout pas en ce moment. Voilà.
Maurice Potcher, d'ailleurs, sera au cœur d'un feuilleton théâtral que vous proposez cet été, Julie Delisle.
Oui, ça s'appelle « Hériter des brumes » et c'est une commande que j'ai faite à Alix Fournier-Pitaluga et Paul Francesconi, qui sont nos deux auteurs associés, et qui ont écrit un feuilleton théâtral en 6 épisodes d'une heure, qu'on va jouer dans le nouage.
À la suite, les 6 heures?
Alors, il y aura des intégrales, mais ça va même faire plus de 6 heures parce qu'on va mettre des entractes pour que ce soit supportable, dans le jardin du théâtre, et qui est l'histoire, parce qu'elle va être portée par des comédiens amateurs et professionnels, d'une troupe de comédiens amateurs et professionnels qui arrive à Bussan, se pose la question de qu'est-ce que c'est que cette histoire du théâtre du peuple, de cette utopie, pourquoi elle perdure depuis 130 ans et va refaire tout le chemin historique et poétique, parce que ça doit être une œuvre, c'est une œuvre formidablement poétique avant d'être ça n'est pas du théâtre documentaire, par exemple, c'est nourri de l'histoire, mais c'est un vrai voyage avec ses acteurs. Et voilà, et ça s'appelle Hériter des brumes. On est en train d'y travailler et ça nous émeut beaucoup parce qu'on découvre que l'histoire de ce lieu, c'est une histoire des humains qui l'ont fait.
Et pourquoi ce titre, Hériter des brumes?
Qu'est-ce que c'est que l'héritage après 130 ans? Comment on se sent quand on nous confie la direction? C'est un grand mot, mais en tout cas, on nous demande d'avoir une vision pour un lieu pendant un temps défini. Il y a eu plein de directeurs. Je suis la première directrice. Qu'est-ce que ça me fait à moi? Et comment je vais passer ce lieu à quelqu'un d'autre ensuite? Parce que je vais devoir partir. Et donc, c'est quoi la question de l'héritage? Et puis, les brumes, c'est quand même ici l'espace poétique, c'est réel. Ce sont ces brumes qui s'accrochent et qui sont aux arbres le long des montagnes qui nous entourent. Et je crois que quand on arrive ici et qu'on n'est pas de Bussan ou Vosgien, on est frappé par la présence de ces brumes qui sont pour moi des espaces de rêves infinis et magnifiques.
Est-ce que parfois la brume entre par la porte du fond et s'immisce sur la scène?
Alors moi, j'ai fait des expériences particulières.
Ouais.
La nuit, parce que... pouvoir y aller la nuit. Donc
ça, c'est le privilège de la directrice.
Voilà. Et donc, effectivement, on peut constater qu'à certaines heures, en fait, il y a... Alors, c'est des spécialistes des brumes vous diront, c'est pas des brumes. Mais en tout cas, il y a tout le pétrichor et toutes ces choses qui émanent de la terre et qui viennent se mettre en surface et parfois rentrer, ouais. Et
puis, nuages dans le théâtre, alors.
On en a.
Mais ça, c'est magique.
Ouais, c'est un peu fou.
Hériter des brumes, ce sera cet été, donc. Feuilleton théâtral, mise en abîme, un feuilleton théâtral pour raconter ce théâtre sur la scène de ce même théâtre. à voir donc au Théâtre du Peuple. Merci beaucoup à toutes les deux. Colline De Santis, gérante du Vroom Café, basée à Bussan, mais qui se promène, on l'a compris, hein, dans les Vosges. Julie Delisle, directrice du Théâtre du Peuple. Je vous dis à demain, Julie. À merci. Et voici à présent le jeu des 1000 euros sur France Inter, toujours sur cette scène de Bussan. Bonjour Nicolas Stoufflet.
On partage la scène, on partage la semaine. Bonjour Dorothée. J'ai appris qu'il allait y avoir des meurtres à Bussan. Qu'est-ce que c'est cette histoire de meurtre à Bussan? Julie, vous voulez nous en dire
la
un petit mot?
La directrice du théâtre a une réponse.
Il y a quelques semaines le tournage d'un des épisodes de cette fameuse série Meurtra et qui se passe à Bussan et qui a eu lieu. Il y a un meurtre au sein du théâtre.
Ça passera sur France 3 à la fin de l'année peut-être ou au début de l'année 2026. Merci Dorothée.
À tout à l'heure.
Chers amis, bonjour. Dans les Vosges, le département et dans le massif des Vosges, entouré de sapins et de hêtres, Bussan, c'est un village de 1300 habitants qui occupe la partie supérieure de la vallée de la Moselle. Et oui, la rivière prend sa source ici, au pied du col de Bussan. Le col de Bussan qui marque la limite entre le département des Vosges et celui du Haut-Rhin. Donc, on est en Lorraine, mais à la limite de l'Alsace. Un des plus hauts sommets de la commune, c'est le Drumont, à 1200 mètres, avec une ferme auberge réputée, ouverte à la belle saison, donc en ce moment. Bussan qui est classé station de tourisme, station de pêche, entre autres labels. Et pour le jeu, aujourd'hui, pour le spécial jeune, on est installé donc dans ce théâtre du peuple, vous le savez, avec carnet de campagne toute la semaine, construit à la toute fin du 19e siècle, il y a exactement 130 ans, monument historique dans tous les sens de l'expression, puisqu'il est classé. Son fond de scène s'ouvre sur la forêt. D'ailleurs, vous entendez les oiseaux, c'est magique. Il est né d'abord d'une scène créée en plein air, à flanc de colline, puis on a couvert la scène, mais en laissant le fond de scène ouvert sur la nature, grâce à de grandes portes coulissantes. Et puis des bancs très confortables, n'est-ce pas, ont été installés. Il est conseillé de venir avec son petit coussin personnel. Et puis on a fermé les côtés. Et puis le toit est arrivé dans les années 1920. Et sur cette scène, aujourd'hui, pour le jeu, Noé Cavalier et Éline Thomas. Bonjour Éline.
Bonjour.
Tu viens de Remiremont, qui n'est pas très loin. En quelle classe es-tu? Pas pour très longtemps, d'ailleurs on arrive au bout de l'année scolaire.
En quatrième.
Ça t'a plu la quatrième?
Oui, oui.
Est-ce qu'il y a des matières qui t'ont davantage passionné que d'autres? Tu peux tout nous dire.
J'aime pas trop le sport, mais sinon j'aime bien un peu tout.
Tu aimes bien lire. Est-ce qu'il y a un livre que tu as lu récemment que tu pourrais chaleureusement nous conseiller? Et quand je dis nous, c'est évidemment toutes celles et tous ceux qui nous suivent, notamment les jeunes le mercredi.
Oui, j'ai lu très récemment Léonie et le premier cirque du monde. Je pense que c'est d'Emily Cole, mais je suis plus sûre.
Alors j'ai vérifié avant, c'est Elissa Béjaoui.
Ah oui, c'est un autre livre, Emily Cole.
Elissa Béjaoui, qui est l'autrice de ce roman. C'est un peu fantastique.
Oui, un petit peu, mais c'est aussi très... C'est assez long, mais en même temps, c'est pas compliqué. Enfin, on se plonge facilement dans l'histoire.
Tu peux nous en dire quelques mots, sans tout dévoiler?
Alors, sans tout dévoiler, c'est une fille qui va être comme happée par un prospecteur de cirque. Et elle va vouloir entrer dans cette école de cirque. Et elle va se faire des amis, elle va se rendre compte que c'était pas tout à fait comme elle l'imaginait.
Léonie et le premier cirque du monde d'Elissa Béjaoui. Bienvenue Éline, avec Noé Cavalier. Bonjour Noé.
Bonjour.
Tu habites Mulhouse, tu es venu pour le jeu?
Oui.
Est-ce que tu connaissais honnêtement le Théâtre du Peuple ici à Bussan?
Non, pas
d'accord.
Du tout.
D'accord, c'est bien, ta franchise est tout à fait appréciable. Tu habites Mulhouse et tu as franchi donc le col de Bussan pour nous rejoindre, à vélo ou pas?
Non, non.
Parce que tu pratiques le vélo?
Oui, oui.
Qu'est-ce que tu fais par exemple?
Je fais un peu de montagne. Quand et même. Des fois je vais au collège à vélo.
Oui, c'est bien. Donc c'est de la route que tu fais plutôt?
Oui, oui, plutôt. Oui, oui.
Et il y a des sommets que tu as atteints comme ça déjà? Tu as des records?
J'ai fait le Mont Ventoux et le Grand Ballon.
Ah bah, le grand ballon ici, bien sûr, le Mont Ventoux dans le Vaucluse. Et toi Noé, un petit bilan là sur la classe, tu es en troisième, c'est ça?
Oui.
Alors, les matières aimées, préférées, moins peut-être?
J'aime bien l'histoire et le sport, Et l'anglais, j'aime pas trop.
Tu aimes pas trop l'anglais? Ah ouais. Noé et Éline, réunis, nous avons donc deux collégiens pour le spécial jeune du mercredi sur France Inter. Ils ont tiré au sort des questions, et ce n'est pas pour rien, c'est pour que je les leur pose. Première question bleue, envoyée par, je trouve, Zachary Prel, qui habite Pêche-Bonnieux, dans le département de Haute-Garonne. Oh, question bleue, donc facile pour commencer. Combien de côtés possède un hexagone ?
6.
Sans hésiter, d'accord. Question de mise en jambe. Autre question bleue de Sandrine François, qui habite Épagny-Métessy, commune de Haute-Savoie. Quelle bataille Vercingétorix a-t-il remportée en 52 avant Jésus-Christ ? Bataille qu'il a gagnée.
Alésia.
Et non, il a...
je pense que c'est Gergovie.
Et oui, parce qu'à Alésia, il a perdu, mais il avait gagné à Gergovie. Bonne réponse, c'est Gergovie. Face aux légions de Jules César, aux troupes de Jules César. Gergovie, 52 avant notre ère. Question bleue, spéciale jeune de l'école Sainte-Anne. D'ailleurs, c'est une école qu'il a envoyée collectivement. École Sainte-Anne à Sainte-Anne-d'Auray, dans le Morbihan. Quel est le fleuve qui traverse Londres ? En français, si vous voulez.
La Tamise.
C'est la
pense.
Tamise. Et en anglais, tu n'aimes pas l'anglais, mais est-ce
le
que tu.
Le Thames.
Le Thames, oui, c'est ça. Thames en anglais et Tamise en français. Qu'est-ce qui se passe avec l'anglais, alors, Noé ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un blocage ? Il y a quelque chose ? Non ? Pourquoi ? Tu as une raison ?
Oh, c'est mon prof, je l'aime pas trop.
Ah. On n'a rien entendu. Rien. Question blanche de la part d'Isabelle Lano à Loche, en Indre-et-Loire. Tu vas peut-être changer de prof l'année prochaine.
Oui.
Paris n'est jumelé qu'avec une seule ville. Laquelle ? Vous savez, les jumelages. Paris est jumelé avec une seule ville. Quelle est cette ville ? Alors, allez-y, proposez des noms de villes. Comparable, disons.
Pau ?
Ah non, alors ce n'est pas une ville française.
Ah.
Ouais.
Berlin ?
Ce n'est pas Berlin.
C'est pas en Espagne, non ?
Ce n'est pas en Espagne, non. Mais c'est bien dans le sud de l'Europe.
Rome ?
Oui, Paris est jumelé avec Rome. Depuis 1956, Paris et Rome... sont jumelés, les deux villes ont prêté un serment de jumelage avec un slogan de leur union. Seul Paris est digne de Rome. Seul Rome est digne de...
Paris.
Paris. Question blanche de la part de Grégory et Stéphanie Pouget de Colomiers en Haute-Garonne. Quel est ce palais ? Palais emblématique de Pékin. Alors c'est, en fait c'est un surnom et qu'on emploie surtout à l'étranger d'ailleurs. Comment appelle-t-on ce palais emblématique, historique de Pékin, qu'on appelle parfois palais ancien, musée du palais, et alors on parle de... à Pékin.
Palais interdit ?
Alors,
palais impérial ?
C'est le... Alors, il y a bien le mot interdit, mais c'est...
Ah, la cité interdite. Voilà.
La cité interdite, Émeline et Noé. Cité interdite. Palais impérial réalisé au 15e siècle. Et la question rouge, déjà. Éline Thomas, Noé Cavalier à Bussan, dans les Vosges. Question qui nous vient du département pas très loin, d'ailleurs, situé pas très loin d'ici. C'est le Bas-Rhin, là, on est plus proche du Haut-Rhin ici. C'est une commune qui s'appelle la Vancenot. Et c'est Monique Borner qui nous a envoyé sur franceinter.fr. Quel alphabet est utilisé dans les langues slaves, en particulier russe, ukrainien et serbe ? Comment appelle-t-on cet alphabet ?
L'alphabet celtique, mais
ce n'est pas celtique.
L'alphabet grégorien.
Alors, celtique, peut-être que c'est phonétiquement, vous avez pensé à autre chose. Enfin, disons que ça vous avait pensé à celtique, parce que ça, bon, peut-être, ça sonne un tout petit peu, de la même façon. Alphabet utilisé dans les langues slaves.
Ah, l'alphabet cyrillique.
Oui, l'alphabet cyrillique. Waouh. C'est bien, dans le jeu des 1000 euros, on a du temps pour répondre. Il y a des jeux où c'est la rapidité qui compte. Ici, on a, surtout dans la première partie, vraiment l'espace nécessaire pour affiner sa réponse. Conclusion, Éline, Thomas, Noé, Cavalier, deux collégiens, ont répondu à toutes les questions et peuvent directement tenter le...
Oui.
Banco.
Oui, Niemine, oui, si tu le demandes. Moi, je veux bien. Et Noé, lui, il est d'accord. Et tous les deux, vous dites donc ensemble...
Banco.
Banco.
Le jeu des 1000 euros sur France Inter.
Vous avez une minute. Discutez entre vous pour nous proposer une réponse commune. Question de Laurent Tarel de Lyon 5e. Quel est le nom donné à ce recueil, ce livre de magie ou de sorcellerie, comprenant habituellement des instructions sur la façon de lancer des sorts, créer des enchantements, se livrer à la divination, fabriquer des objets magiques, ou encore invoquer des entités surnaturelles? Comment appelle-t-on ce type de livre?
Un grimoire ?
Vous êtes d'accord ?
Oui.
C'est un grimoire !
Je sais pas.
Vous avez gagné le banco ! Voulez-vous vous arrêter ? Sécuriser, comment dire ? Repartir avec 500 euros ou tout remettre en jeu en tentant de gagner les 1000 euros du...
Super ! Super ! Super ! Super ! Super ! Super !
Non, on va s'arrêter là.
Vous êtes d'accord pour vous arrêter ? Applaudissements, bien sûr ! Vous avez gagné 500 euros. C'est bien, surtout avant les vacances. Est-ce qu'il y a des projets pour les vacances déjà, Emeline? On le sait?
Non, non.
Tu sais pas où tu vas partir?
Ah, si.
Ah, bah, si, c'était ma question en fait. Oui? Ça sera où?
Bah, je vais partir en Bretagne.
Oui, comme tous les ans alors?
Oui.
Ah, oui. Et toi, Noé, qu'est-ce que tu as en prévision?
En juillet, je vais regarder le Tour de France.
Oui.
Et en août, je vais partir en colo 2 semaines.
Ça sera où en colo?
Vers Toulon.
D'accord, donc cap au sud. Bien voilà, c'est toujours bien de gagner le banco avant les périodes de vacances. Noé Cavalier, Éline Thomas, vous avez gagné le banco, mais ce n'est pas tout. Eh non, parce qu'on est comme ça à France Inter. Non seulement on vous offre de l'argent, oh, des sommes modestes, mais quand même, c'est toujours appréciable, mais aussi le petit Larousse illustré 2026, c'est la toute nouvelle édition que nous vous remettons, ainsi qu'un autre livre Larousse. Attention, c'est un peu lourd, je lève le livre pour arriver à vous dire que c'est 150 énigmes dignes d'Albert Einstein. Voilà. Bah ça va être bien pour les vacances. Non mais franchement, si, ça, c'est pour se creuser un peu la cervelle. C'est toujours bien de faire travailler aussi la tête pendant les périodes estivales de congé. Également une publication Larousse. Très bonne journée à toutes et à tous. Et à demain, si vous le voulez bien. Et Dorothée, alors, qu'est-ce qu'on annonce des enregistrements du jeu des 1000 euros prochainement?
Alors moi, je suis un peu émue parce que le mercredi, c'est le jour où mes enfants écoutent le jeu des 1000 euros pour le spécial jeune. Donc
oui, c'est le jour où tu réponds à toutes les questions aussi, tu
c'est
peux
ça.
Le dire.
Exactement. Ouais. Les prochains enregistrements, mon cher Nicolas, auront lieu les 25 et 26 juin. Le 25 à Dortan, dans l'Ain, et le 26 au Rousse, dans le Jura.
Et le 19 août à Erquy, dans les Côtes d'Armor, et le 20 au Conquet, dans le Finistère. Mais je m'arrête là.
À suivre, le 13-14.
Vous avez rendez-vous avec votre histoire partout en France et en Europe. Les 13, 14 et 15 juin, venez fêter les Journées européennes de l'archéologie organisées par l'INRAP, Institut national de recherches archéologiques préventives et le ministère de la Culture. Retrouvez tout le programme sur journée-archéologie.eu,
journée-archéologie.eu.
Cette année, la France accueille le Brésil. Découvrez le meilleur de la création artistique brésilienne partout en France jusqu'en septembre. Expositions, concerts, spectacles vivants, fêtes, rencontres. Plongez au cœur d'une culture riche et foisonnante pour fêter les 200 ans d'amitié des deux pays. La saison Brésil-France 2025, une grande célébration à ne pas manquer. Tous les détails de la programmation à retrouver sur brésilfrance2025.com. Avec le soutien du gouvernement brésilien.
France Inter présente
5e République, anatomie d'un régime en crise.
Un livre de Thomas Negaroff et Anne-Charlène Bézina.
Notre constitution est-elle à bout de souffle? Peut-elle survivre à la crise politique actuelle? 45 questions pour comprendre l'histoire politique contemporaine de la France.
5e République, anatomie d'un régime en crise, un livre France Inter.
Chaque année, près de 30 000 personnes sont secourues par les sauveteurs en mer. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, les bénévoles de la SNSM veillent sur vous. Mais n'oubliez pas que c'est grâce à vos dons qu'ils accomplissent leur mission. Depuis 200 ans, et pour longtemps, donner à terre, c'est sauver en mer. Faites un don sur snsm.org.
France Inter en vidéo, c'est quand vous voulez sur YouTube, Facebook et Instagram.
France Inter, il est 13h. Le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour à tous et bienvenue au sort.